CFM, CFM, le mag, la vie du Villefranchois.
La vie de Villefranchois dans le magazine d'actualité. Vous venez nous rejoindre, soyez les bienvenus. Une édition du MAG entièrement consacrée et dédiée aux dossiers d'actualité de nos collectivités, mairies et communautés de communes, avec en studio aujourd'hui Serge Roch, président de la communauté de communes du Grand Villefranchois et maire de Villefranche de Rouergue. Serge Roch, bonjour.
Bonjour.
Les dossiers d'actualité, il y a peu se déroulait le traditionnel débat d'orientation budgétaire qui, au-delà de faire un point sur la gestion de la ville, conditionne aussi le taux d'imposition communale. Toujours pas d'augmentation en 2019, malgré la baisse des dotations d'État et puis un programme d'investissement qui s'élève aujourd'hui à plus de 6 millions d'euros. Comment on fait, Serge Roch, pour trouver cet équilibre budgétaire et quelles sont les grandes lignes du budget 2019 de la commune de Villefranche de Rouergue?
Oui, effectivement, vous avez annoncé un titre, la communication la plus forte, mais ce qui est le plus intéressant pour les villes. En tout cas, c'est un des dossiers les plus importants, je pense, pour les Villefranchois. La commune a bien conscience que le pouvoir d'achat, c'est un vrai sujet, et que donc, pour ce qui la concerne, elle a renoncé, comme d'ailleurs c'était une promesse électorale, comme quoi on tient quand même, contrairement à ce qui est dit parfois, les élus tiennent à respecter leurs promesses. J'avais promis de ne pas augmenter les impôts durant tout le mandat, et c'est une promesse qui a donc été tenue entièrement, puisque depuis 8 ans, Le taux voté par la commune sur les impôts qu'elle perçoit n'a pas été augmenté. Et que y a peu de collectivités, je pense, qui ont tenu ce pari depuis 8 ans en France. Donc on l'a fait parce que on voulait protéger le pouvoir d'achat des Villefranchois, mais il y a fallu une volonté de faire. Ça veut dire que on y a pu y arriver malgré la diminution des recettes de l'État. On a perdu quasiment 1 million de recettes depuis 2013 par an. Ça veut dire qu'en face, il a fallu faire des économies sur tous les postes, qu'il a fallu faire attention à la dépense et qu'il a fallu aussi aller à la recherche de subventions extérieures pour réaliser les grands projets d'investissement dont vous avez parlé, et notamment par exemple le pôle culturel, qui est l'investissement phare pour ce mandat et pour lequel on sera subventionné à près de 80%. C'est parce qu'on est bien subventionné qu'on peut tenir cette promesse.
Ça, c'est important de le rappeler, ce que vous dites. Le coût global n'est pas celui qui est répercuté sur la population. Ça, c'est une information très importante, parce que souvent, on a une enveloppe globale, mais c'est pas ce que payent les concitoyens.
Non, heureusement, sinon on n'y arriverait pas. Et on essaie d'avoir des projets subventionnés à près de 80%, et notamment pour le pôle culturel, qui est encore une fois la réalisation phare. On a été heureux d'avoir des crédits européens, ce qui est rare d'avoir à Villefranche des crédits européens. Le FEDER a aidé à hauteur de 40%. Et la DRAC, qui est la Direction Régionale des Affaires Culturelles, dont le ministère de la Culture, a aidé à hauteur de 30%. Donc, ce sont des subventions très importantes qu'on a pu avoir, parce que par ailleurs, on était cœur de ville, parce que par ailleurs, il y avait la politique de la ville. Enfin, tout se tient. Et quand on obtient un dossier, ça permet d'aller chercher des subventions par ailleurs.
Et pas simple à obtenir ces crédits, je pense, en tout cas peut-être pour une association, parce qu'il y a le fonds leader aussi, apparemment il y a une manne financière qui a oublié d'être dépensée, et pour une association d'accéder à ces crédits, c'est d'une complexité, faut embaucher 5 personnes pour remplir ces dossiers. J'imagine que du côté des services de la mairie, vous avez ces moyens humains et ces savoirs pour décrocher ces financements.
Mais on est heureux d'avoir des services effectivement qui s'en occupent, et qui s'en occupent, oui, je dirais âprement et activement, et qui, il y a eu des déplacements à Toulouse aussi, évidemment, pour aller plaider ces dossiers directement dans les administrations toulousaines qui gèrent ce type de finances. C'est une démarche très proactive au niveau de la mairie, comme au niveau d'ailleurs des services de la communauté de communes.
Vous l'avez évoqué, le pôle culturel, donc démarche du chantier sous peu. D'autres choses du côté des grands chantiers, peut-être des grandes lignes du budget 2019. J'ai vu passer autour de l'assainissement, notamment, c'est un gros budget qui est attribué. Sur les 6 millions d'investissements, je crois qu'il y a 2 millions attribués à l'assainissement.
Exactement, il y a de gros projets que certains qualifieraient de pharaonique, même s'il n'y a pas de pharaon à Villefranche, mais c'est de très gros projets, 2 millions d'euros, mais qui sont nécessaires pour mettre en sécurité vis-à-vis des débordements de l'eau en cas de pluie torrentielle, tout ce quartier, et qui ont nécessité de faire appel à des techniques nouvelles avec... Vous l'avez vu, des réseaux ovalisés qui sont une rareté, mais qui étaient nécessaires pour permettre d'évacuer toutes les eaux pluviales et usées en toute sécurité. Alors c'est des travaux qui ne se voient pas, une fois que tout ça sera fermé, ça disparaîtra du paysage. N'empêche que c'est des travaux très importants pour l'avenir de tout ce quartier de Villefranche. Mais il y a aussi d'autres investissements sur la voirie. Il y a 600 000 euros qui sont inscrits pour la voirie qui va se réaliser partout sur la commune. Nous avons des travaux plus spécifiques comme celui du boulevard de Gaulle qui va intervenir avec l'aide du département là aussi et au droit de la Douve. Donc, dans quelques semaines, ces travaux vont intervenir. On vient de réceptionner de beaux travaux aussi de requalification de la place des Pères. J'invite les Villefranchois à aller y faire un tour. Ils ne reconnaîtront pas cette place qui était vétuste et qui a été, je pense, très bien aménagée avec la rue de la Tour de Polier, qui est une très belle entrée touristique en ville, qui est entièrement piétonne. On a la chance d'avoir une allée sans aucun garage. Donc on peut la réserver réellement aux piétons et on va en faire aussi une entrée touristique en profitant du grand mur de l'école de la Sainte-Famille pour mettre en place là des grandes photos qui seront valorisantes pour le patrimoine de Villefranche. On a évidemment un très beau patrimoine dans notre ville, donc imaginez ce que sera cette rue avec de belles photos de la collégiale, du pont des consuls, de la chapelle des pénitents noirs, de la chartreuse, de la Sainte-Famille. Enfin, on a de quoi organiser un très beau diaporama à ce niveau.
Des travaux couverts par le contrat-ville, en partie ou pas, ou c'est la... Comment ça s'organise?
Oui, c'est ça. En partie couvert par le contrat de ville, par le cœur de ville.
Et puis le cœur de ville, pardon. C'est autre chose. Oui.
Et puis par, évidemment, les aides de nos partenaires institutionnels, qu'il s'agisse du département, de la région, de l'État, qui sont à notre écoute et à notre chevet pour nous aider efficacement sur tous ces projets qu'on ne pourrait pas réaliser, effectivement, s'il n'y avait pas toutes ces subventions à la clé.
Il est souvent question de concertation citoyenne aussi autour de ces différents projets. J'ai l'impression que c'est même presque rentré dans la loi. À chaque fois qu'on fait quelque chose sur le territoire, on est obligé de se rapprocher de la population. Et puis pour l'impliquer aussi dans ces différents projets, qu'en est-il pour ces différents projets? Alors le pôle culturel, j'imagine que les associations ont été aussi sollicitées ou le seront ou vont l'être.
Oui, mais le pôle culturel a été présenté déjà à la population, aux associations, pour recueillir leur avis sur un dossier qui, par ailleurs, est techniquement très compliqué. Et je rends hommage aux services municipaux qui sont à la tâche et à la peine sur ce service. Et si ce projet peut sortir aujourd'hui, c'est grâce à leur implication. Ça n'a pas été facile, mais on y arrive. Et vous verrez qu'il y aura un très beau pôle culturel à Villefranche. Et alors, la concertation citoyenne, effectivement, devient de plus en plus prégnante. Et nous avons mis en place notamment pour un projet qui est le projet de requalification de l'îlot de la Miséricorde, rue de la Miséricorde, où les citoyens ont devant eux, en quelque sorte, une page blanche. En tous les cas, la mairie acheter un certain nombre de bâtiments vétustes que l'on va démolir. Et donc là, en plein cœur de ville, on a un espace libre. Qu'en fait-on? Parce qu'il y a plusieurs, évidemment, orientations possibles. Et donc, on a fait appel à l'expertise des citoyens, en particulier des citoyens qui habitent la Bastide, qui sont donc directement concernés par l'affaire. Et il y a eu déjà plusieurs réunions de travail, plusieurs groupes de travail, de telle sorte qu'on puisse avoir plusieurs vues. Et on va tenir un grand compte de la vue des habitants de la Bastide pour savoir comment ils voient une rénovation d'un espace public. Est-ce qu'il faut en faire un parking? Il faut faire un espace vert, un espace partagé, un espace public, un espace privatif. Enfin, il y a beaucoup de questions qui
et
se
posent.
Et puis
des travaux sous contrainte avec le patrimoine, et je l'imagine.
Absolument, et avec l'avis des bâtiments de France, faire quelque chose qui soit admis par les bâtiments de France, en sachant que là aussi, on va discuter. Parce que parfois, on a des projets qui sont pas du tout acceptés par les bâtiments de France, mais nous, on n'accepte pas ceux qui nous proposent, et on discute. Et on arrive à des solutions de compromis et d'accord. Et c'est comme ça qu'on a ensuite de beaux projets, quand ils sont le fruit d'une concertation qui touche à la fois les citoyens, mais aussi les services concernés de l'État, quand on se met tous ensemble autour d'une table et qu'on arrive à trouver un point commun, et ce qui permet ensuite d'avoir des projets partagés, parce que c'est très important aussi que la population accepte bien ces projets qui sont
Quand on y participe, ça nous appartient un petit peu aussi, hein, donc d'où l'importance de la démarche chantier école également, et puis il y a cette notion d'économie et puis de fabriquer des savoir-faire avec l'idée de former des entreprises locales pour développer leurs compétences autour de ce type de réhabilitation qui doit demander du savoir-faire pour le coup.
Absolument, on est dans le domaine du circuit court aussi, tout ça, des compétences locales, du savoir-faire local, et donc chaque fois qu'on peut faire appel à une entreprise locale, on le fait, mais en sachant que tout ça est réglé aussi par les règles d'appel d'offres et que légalement on peut pas attribuer un marché à une entreprise locale uniquement parce qu'elle est locale. Il faut aussi qu'elle montre son savoir-faire et que tout ça soit réglementaire par rapport aux règles de la concurrence.
Un mot sur le commerce avant de passer à un dossier qui me passionne particulièrement, qui est la démarche zéro phyto. Un mot sur le commerce de centre-ville. On vient d'apprendre récemment la fermeture de Star Jouet, Place Notre-Dame, qui dans un article mettait plus ou moins en cause les espaces de stationnement. Voilà, un mot sur alors peut-être ce cas particulier ou le commerce en général à Villefranche de Rouergue. On sait aussi que des commerces s'installent actuellement, un salon de thé, une autre boutique. Le tiers-lieu, on aura l'occasion d'en parler peut-être au travers de votre fonction de président de la communauté de communes du Grand Villefranchois. Un mot sur le commerce de centre-ville.
Eh bien, le commerce, c'est comme toute activité humaine, peut-être plus que toute activité humaine, c'est-à-dire que c'est soumis à la vie, au changement. Et on voit bien que nos façons de consommer, les uns et les autres, change beaucoup, évolue à une vitesse grand V. Il est évident qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas les hard discounts, que tout ça évolue très vite et que nous faut nous adapter et que c'est vrai que le commerce traditionnel de centre-ville subit de plein fouet une concurrence multifactorielle qui est très difficile à relever. Villefranche, vous ne pouvez pas rester en dehors de la vie, qui est celle de notre nation aussi, parce qu'il y a quand même une spécificité française. Il y a plus de grandes surfaces en France qu'en Italie, en Espagne ou en Allemagne. Bon, on est en France et donc on subit quelque part les réglementations françaises. Et puis, il y a aussi le choix des consommateurs. Et personne n'oblige les consommateurs à fréquenter telle ou telle surface et ils vont s'ils souhaitent y aller. Donc, tout ça, c'est beaucoup de contraintes qui s'imposent à nous et qui, effectivement, sont peut-être plus prégnantes dans une petite ville comme nous, qui a aussi des contraintes architecturales et urbanistiques très fortes au niveau de la Bastide. Néanmoins, il reste en Bastide de très beaux commerces. Et si les Villefranchois, et je les incite à chaque vœu, et je profite de votre antenne pour renouveler notre appel, il suffit pas de pleurer sur le sort des commerçants en centre-ville. Le sort des commerçants en centre-ville, il dépend de ce que font les consommateurs. Donc on n'est pas obligé de faire tous ces achats en centre-ville, certainement, mais on peut en faire quelques-uns quand même. Et il y a donc en Bastide de très belles pâtisseries, de très belles boulangeries, de très belles épiceries, une très belle librairie, des pharmacies, des buralistes, des marchands de vêtements. Enfin, en Bastide, il reste quand même beaucoup de commerces très actifs. Alors, évidemment, on a la Bastide était deux fois plus riche en commerce qu'une ville de la même taille, statistiquement, parce que la Bastide était une ville très commerçante. Et donc, une ville qui a beaucoup de commerce, quand il y a un problème sur le commerce, ça se voit plus qu'ailleurs dans une ville où il y en aurait moins. Donc c'est vrai que la Bastille a subi de plein fouet cette perte, mais il y a, comme vous l'avez dit, des commerces qui se créent et il faut inventer une nouvelle vie en Bastide, qui repose sur les commerces. Il faut à tout prix qu'il reste les commerces, et donc faisons-les vivre, mais aussi il faut que se réimplantent en Bastide des services qui amènent également de la vie, du flux et des clients à nos commerçants.
On peut parler des Basticados peut-être, mais on va dériver un peu sur la communauté de communes, la mise à disposition d'une ambassadrice du commerce, et puis les Basticados qui ont pour vocation de recréer du flux en centre-ville. Je crois que c'est un succès pour cette opération qui a été lancée il y a septembre 2017, hein, je crois savoir. Et l'association d'ailleurs Commerce en Bastide a gagné le prix Les Pros ont du talent grâce à cette initiative qui a été d'ailleurs célébrée au musée Grévin au mois d'octobre 2018, je crois, ou novembre.
Oui, absolument. Il faut insister. C'est un succès national. Ils ont eu le premier prix national en termes d'innovation. Ces Basticados qui sont une forme en réalité de monnaie locale, puisque vous avez des chèques que vous pouvez utiliser que localement et dans un périmètre bien déterminé. Donc ces formes de chèques existent ailleurs, mais ce qui en fait la spécificité à Villefranche, c'est que c'est fortement soutenu, comme vous l'avez dit, par la communauté de communes, avec l'ambassadrice, et c'est les commerçants eux-mêmes qui le disent. Qui se sont comparés à ce qui se passe ailleurs, et il y a qu'à Villefranche où il y a un support aussi important de la communauté de communes qui assure la permanence du suivi, parce que il faut que tout ça soit fait très sérieusement, il faut que les gens puissent acheter ces chèques au bon endroit, puissent les écouler ensuite. Enfin, il y a une organisation derrière très 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 accomplie, très suivie, et donc ça c'est la communauté de communes qui l'assume, et c'est grâce à cette organisation que effectivement ces Basticados ont rencontré un grand succès, puisqu'on en est à 120 000 ou 130 000 euros de Basticados distribués, et qui évidemment ensuite sont réinjectés sur le territoire, puisque ces chèques ne peuvent être consommés que dans les commerces du centre-ville. Il y a aussi de bons restaurants en Bastille, donc on peut vraiment les consommer sans aucun problème. Donc,
commerçants adhérents à l'opération et adhérents à l'association Commerce en Bastille.
Voilà, absolument.
On reparlera de commerce, ou plutôt d'économie, un petit peu plus tard dans le cadre de cet échange avec notamment l'extension de la zone de la Glèbe. Mais parlons de la démarche zéro phyto à Villefranche-de-Rouergue, et puis aussi dans le prolongement, l'inauguration du Ruchier. C'est un ensemble autour du respect du vivant, respect de l'environnement, et on va avoir à façonner un autre regard sur le beau, très certainement, ces mois à venir sur Villefranche-de-Rouergue et l'aménagement. Il n'y a pas de mauvaises herbes, d'ailleurs une plante est une plante bio-indicatrice, elle nous indique ce qu'on a dans le sol aussi. Moi ça me fait plaisir de voir des orties, je sais qu'en dessous le sol est plutôt de bonne qualité, il y a des plantes comme ça. Par contre, si on voit de la datura, faut se méfier, ça veut dire que le sol est plutôt pollué. Voilà, il y a des indicateurs comme ça, donc autant laisser ces plantes vivre. Et puis peuvent être jolies aussi, tout dépend de l'angle, de la lumière, de l'éclairage. Un mot sur le zéro phyto à Villefranche-de-Rouergue, donc engagé pour l'équipe municipale.
Oui, c'est un dossier qui tient à cœur à l'équipe municipale, effectivement, pour lequel on s'investit beaucoup, et on va continuer, puisque le 15 juin, samedi 15 juin, il y a une opération d'appel à nos concitoyens pour participer à du désherbage
manuel,
évidemment, sans faire appel aux produits phytosanitaires. Dans différents quartiers de la ville, on fait appel donc à la participation citoyenne, qui sera encadrée également par les services municipaux, auxquels les élus participeront comme les autres citoyens, parce que dans ce type de dossier, la commune à ses responsabilités et les assume, puisqu'on renonce donc à utiliser tous ces produits, mais il faut qu'elle soit accompagnée par la population, la commune, à elle seule, avec la dizaine d'employés qu'il y a aux espaces verts, et évidemment ne peut pas à elle seule assurer un bon environnement sans phytosanitaire s'il n'y a pas une participation des citoyens. Mais comme vous l'avez dit, on doit aussi apprendre à respecter la nature, et certaines mauvaises herbes, soi-disant mauvaises herbes, sont en fait des indicateurs qu'il faut respecter. Alors ça veut pas dire que pour autant on va se laisser envahir par les ronces et les orties, etc. Mais on peut en tolérer quelques-unes de la même façon que sur l'Aveyron, eh bien, il y a un herbier, c'est l'herbier qui est également très riche, et donc il ne faut pas, en période estivale, supprimer complètement l'herbier sur l'Aveyron, parce que c'est aussi un signe de biodiversité.
Une démarche que vous aviez entamée il y a déjà quelques années, de mémoire, avec du bois raméal fragmenté, une forme de paillage pour éviter le développement de mauvaises herbes, économie d'eau aussi, ça fait partie d'un ensemble, d'un tout, une notion environnementale qui est en train de se développer pour la commune.
Oui, et puis on fait appel aussi à des auxiliaires, les coccinelles et tout ça, qui nous aident. On réfléchit également à installer peut-être des poulaillers pour combattre l'excès de déchets, puisque évidemment tout ce que mangent les poules, c'est autant qui ne va pas dans les décharges, qui n'est pas véhiculé par des camions, d'où la pollution atmosphérique, etc., qui n'est pas la moindre des pollutions. La pollution atmosphérique est une pollution un peu cachée, mais elle est redoutable pour la santé humaine. Enfin,
on va parler de pollution lumineuse aussi, avec l'extinction de l'éclairage public. Et là, on va commencer à basculer du côté du plan climat air énergie porté par l'élu Michel Delpech, élu à la commune de Monteil, et qui est l'élu en charge de ce PACET avec les mardis du climat, et puis un objectif 2030. Il y a deux paliers, 2030-2050, devenir un territoire à énergie positive. Quelle belle idée, avec réduction d'un côté de la consommation énergétique et production d'un autre côté de la production énergétique. Ça fait partie des grands dossiers. En tout cas, moi, je suis attentif à ce genre de dossier sur le territoire. J'ai l'impression qu'on donne du sens à une action de territoire. Un mot sur ce qui peut être mis en place avec l'extinction. Je crois que ça met d'accord en plus toutes les communes de la communauté de communes du Grand Villefranchois, ce qui est pas rien. L'éclairage public dans les communes du Grand Villefranchois.
Oui, bien, vous en parliez sur le plan de l'environnement du PCAET, que développe avec beaucoup d'énergie et de conviction, effectivement, Michel Delpech, le maire de Monteil. La communauté de communes est quand même en pole position. On est parmi les territoires cités en exemple, et on a un certain nombre de territoires environnants qui viennent nous demander comment on fait. Il faut savoir qu'on vient d'être lauréat pour la deuxième fois d'un appel à projet régional concernant effectivement la production d'énergie auquel vous faisiez appel avec la création donc d'associations dédiées à cette production, la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les toitures. Et donc la région nous soutient dans ce projet. Ça veut dire que chaque euro versé par nos concitoyens sera accompagné par un euro similaire au niveau régional. Et on est donc une des collectivités en Occitanie le plus en pointe dans ce dossier, avec l'ambition de devenir effectivement un territoire à énergie positive d'ici une trentaine d'années. Mais ça veut dire qu'il faut s'y mettre dès maintenant et travailler avec assiduité. Je dois dire que sur ce dossier-là, on a un appui quasiment unanime de tous les maires, 29 maires. Tout le monde est d'accord pour que le territoire organise des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique et développer les énergies nouvelles. Il y a une unanimité là-dessus, et c'est très réconfortant parce que ça permet effectivement d'avancer très vite. Et c'est aussi un dossier qui prouve l'utilité d'une collectivité telle que la communauté de communes, puisque ça pourrait pas se faire à l'échelon de chaque commune. C'est là où la communauté de communes trouve sa pleine justification, parce que c'est de beaux dossiers qui préparent l'avenir pour nos enfants et que l'on peut mener parce qu'on a une certaine dimension, parce qu'on est unis, parce qu'il y a 29 communes et que ça a du sens.
On peut souligner le travail de Julien Caillet, qui est conseiller énergie à la communauté de communes du Grand Villefranchois, et celui d'Élise Jean, autour de la réduction des déchets. Vous l'avez évoqué avec un poulailler qui a été installé il y a quelques années à Najac, je crois, tant mieux si la procédure se répand. Il y a des communes qui offrent des poules aux citoyens, je crois, j'ai vu ça aussi dans l'actualité. Ça peut être des choses à explorer.
Absolument, mais c'est vrai que vous avez raison de souligner l'investissement de Julien Caillé et d'Élise Jean sur ce dossier. On a la chance
je
aussi.
N'oublie jamais personne.
C'est très bien, vous feriez un bon politicien.
Oula.
Et voilà, il faut jamais. Moi, j'oublie souvent du monde, mais vous n'oubliez pas. Mais il faut, en tous les cas.
Le travail de Sébastien Julien, tant qu'on
voilà,
est là.
Voilà, et Sébastien Julien à la communication de la commune. Non, mais c'est vrai que c'est une chance aussi pour les élus de pouvoir s'appuyer sur des Totalement. Collaborateurs de ce niveau dans tous les domaines, parce que les élus tout seuls, on ne fait pas grand-chose. On peut le faire que parce qu'on a la chance d'être à la tête d'une organisation qui rassemble du personnel de qualité.
Avec des bonnes personnes à la bonne place.
À la
pour
bonne
en
place.
Revenir.
Et qui sont dans l'état de faire des propositions, qui sont facteurs de proposition, parce que c'est des sujets qu'ils connaissent bien et donc ils nous aident à faire avancer le territoire.
Juste une autre précision pour l'extinction de l'éclairage public. Alors bon, voilà, rien n'est dicté, ça ne sera pas uniformisé, ça sera chaque commune qui pourra décider à quelle heure l'éclairage public pourra s'éteindre. C'est une économie de 50% pour les communes de la communauté du Grand Villefranchois qui vont s'inscrire dans cette démarche. C'est pas rien, on est dans la réduction là de la consommation d'énergie.
Absolument, et la pollution visuelle, c'est une vraie pollution aussi, et qui retentit beaucoup sur la vie animale notamment, voire végétale.
La pollution lumineuse, oui. La pollution visuelle, c'est plus les 4x3 qu'on voit sur
oui,
certaines
ça, c'est autre chose, mais la pollution... Et alors, c'est un dossier sur lequel s'investit également beaucoup la communauté de communes, et avec, sur ce sujet-là, il y aura sans doute, comment dirais-je, une avance des communes rurales, par rapport à Villefranche. Mmh. Puisqu'à Villefranche, on a des difficultés techniques qui n'existent pas dans les communes rurales, avec notamment des horloges astronomiques à changer, des armoires, et le problème de la Bastille, etc. Enfin, c'est plus compliqué sur Villefranche. Néanmoins, dans le budget de cette année, on met une somme de 450 000 euros, je crois, sur l'éclairage public pour rénover... Dès cette année, dès 2019, on va rénover l'ensemble des luminaires de la Bastide, dont tout sera en LED à la fin de l'année, toute la Bastide. On va changer toutes les armoires électriques qui doivent être mises en sécurité. On va changer toutes les horloges astronomiques, parce que c'est ces horloges qui nous permettent de programmer d'éteindre ou de diminuer l'extinction, de diminuer l'intensité lumineuse. Et ça, on peut le faire quand on sera en LED. Parce que tant que vous êtes en éclairage traditionnel, ou bien c'est allumé, ou bien c'est éteint. Avec les LED, vous pouvez diminuer l'intensité. Et ça, c'est les horloges astronomiques qui permettent de le faire. Donc, on se met en état, à Villefranche, de pouvoir procéder à ces extinctions lumineuses dans les années à venir. Mais il nous faut... pour cela, avoir changé la totalité des horloges astronomiques de la commune. Mais dès cette année, la Bastide sera en LED et autour de nous, il y aura beaucoup de communes qui se seront mis à l'extinction nocturne. Il y en a déjà une, Ambeirac l'a fait, déjà depuis plusieurs mois. Et Madame le maire me dit que c'est très bien ressenti par la population.
Où il y avait la crainte de l'insécurité voilà, autour de l'extinction.
Oui, mais les statistiques prouvent
Totalement.
Que c'est le contraire.
Totalement.
Que c'est le contraire. Quand il y a une extinction lumineuse, eh bien, il y a plus de sécurité parce que les voleurs ou les malfaiteurs, pour aller dans des endroits où c'est éteint partout, ils sont obligés de se signaler. C'est comme en temps de guerre, la cigarette qui signalait tel ou tel combattant. Là, c'est pareil. Finalement, et paradoxalement, l'extinction nocturne améliore la sécurité. En tous les cas, en Beyrac, les citoyens sont très contents et Madame le maire me dit même qu'elle avait prévu de laisser quelques ampoules allumées et que c'est les citoyens eux-mêmes qui ont demandé de les éteindre.
On parle d'insécurité, on est revenu un peu à Villefranche autour de l'éclairage, ça me fait penser, moi, à l'incivilité à Villefranche-de-Rouergue, quelque chose qui est tout de même assez présent, et même qui est montré du doigt par les citoyens. Et est-ce qu'on a des pistes? J'ai entendu parler d'une brigade.
Oui, alors, d'abord, je vous dirai un mot sur les problèmes de sécurité à Villefranche.
En sécurité, non, c'est plus incivilité.
Incivilité, c'est du ressenti. C'est le ressenti, donc, il faut attacher l'importance, certainement, mais c'est du ressenti plus que du réel. Et quand on voit franchement, ce qui se passe, malheureusement, dans beaucoup de villes, on peut se dire qu'à Villefranche-de-Rouergue, on est plutôt épargné. Savez-vous, par exemple, que moi, je suis d'Albi, de temps en temps, je vais à Albi. Eh bien, il y a eu un mort à Albi pendant le carnaval. Carnaval d'Albi, tout le monde le connaît. Personne n'en a parlé. Il y a eu un mort à Albi, et puis c'était pendant la journée, hein, à 19h, sur l'hélice albigeoise, en plein cœur d'Albi. Un mort. Personne n'en a parlé. Je vois ce qui se passe à Nantes actuellement. Vous avez vu toutes ces les citoyens qui font des démarches pour lutter contre les bagarres qu'il y a dans les quartiers de Nantes, etc. Bon, alors ceci pour dire qu'il faut quand même relativiser et que à Villefranche il y a quelques actes
d'incivilité. Ça peut être le papier qu'on jette parce que c'est la poubelle qui passe par la fenêtre plutôt que de la déposer au conteneur.
Alors ça veut pas dire qu'il y a rien à faire et qu'il faut pas s'en préoccuper. On s'en préoccupe et on le fait. On s'en préoccupe avec les caméras de vidéoprotection. On est quand même la ville la plus vidéoprotégée de l'Aveyron, avec une trentaine de caméras. Et on va encore en installer d'autres, parce que ça nous a permis, effectivement, de résoudre un certain nombre de problèmes concernant...
125 000 euros hein, d'investissement
voilà,
sur
vous avez vu,
les caméras.
Qui est prévu dans le budget. Et, puisque ces caméras ont fait preuve de leur efficacité. Donc, il y a cette action qui est mise en route. Il y a également la brigade, qui est une brigade qui porte surtout sur l'environnement, qui est réservée au centre-ville, à la Bastide, et qui permet effectivement de voir un peu ce qui se passe en Bastide, de répondre aux interrogations des citoyens, de lutter pour la propreté et la salubrité de la ville. Et c'est, je pense, un service qui est très apprécié des habitants qui, en tous les cas, nous le disent. Et puis, il y a une troisième action que l'on fait à l'échelon de la commune, c'est l'action citoyen vigilant qui a été fait dans le quartier des Cabans au départ et puis qui est en train de s'étendre ici, autour du monument aux morts des Croates, dans ce secteur-là, où il y a aussi une demande des citoyennes d'organiser une telle action. On est en train de l'étudier également pour le centre-ville, avec la participation des commerçants, où ce serait une action extrêmement innovante. Et il s'agit là, non pas de cafarder, entre guillemets, mais de retrouver des valeurs qui étaient traditionnelles en France et en particulier en Rouergue, où on est vigilant, on se soucie du voisin, on regarde ce que devient le voisin et donc si on aperçoit des choses qui peuvent paraître anormales, des voitures qui stationnent anormalement ou autres, on le signale en toute discrétion. Les voisins vigilants sont anonymes, ils ne sont pas connus, mais ce sont des lanceurs d'alerte en quelque sorte au niveau de la police municipale ou de la gendarmerie, ce qui permet après aux forces de l'ordre d'agir et de regarder si les craintes sont justifiées ou non. Mais c'est encore une fois le réveil de valeurs qui étaient traditionnelles, où on se soucie du sort de son voisin.
Pour en revenir à l'incivilité, j'ai la sensation que les citoyens se sont appropriés cette lutte contre l'incivilité au travers de journées organisées de collecte de déchets. C'est le conseil municipal d'Enfants aussi qui avait organisé une collecte au mois d'octobre. Enfin, on sent que les citoyens sont quand même préoccupés et ils se disent qu'ils ne vont pas attendre que les pouvoirs publics le fassent, mais qu'ils vont le faire très spontanément. Je trouve que c'est un joli geste aussi conscient et d'intelligence de situation.
Tout à fait. Et on s'aperçoit aussi que c'est la jeune génération qui est le plus sensible et qui, quelque part, amène les adultes à se préoccuper de ces questions-là et à y participer. Et je rappelle à nouveau que le 15 juin, les Villefranchois sont appelés, c'est un samedi, donc on a le temps ce jour-là, à participer à la propreté de leur devant de porte. Et il y aura une communication là-dessus pour indiquer comment ça se passe, mais c'est l'occasion de montrer un élan citoyen et le souci comme les citoyennes de la propreté de notre ville.
On se fera le relais de cette information le 15 juin, en tout cas une date à retenir pour participer à cet élan. Parlons de la communauté de communes du Grand Villefranchois, de l'économie, et puis peut-être, alors avant de parler de l'économie, est-ce qu'on parle du budget, des grandes lignes du budget, puisque le débat d'orientation budgétaire est valable pour toutes les collectivités sur le territoire. Peut-être un mot sur cette communauté qui a un nouveau visage aujourd'hui, après après s'être réorganisé aussi avec la fusion de celle de Najac et de Villeneuve. Un mot peut-être sur les grandes lignes du budget pour notre communauté de communes du Grand Villefranchois.
Oui, alors, les chiffres, ça ne dit pas grand-chose, mais simplement, quand même, le budget de la communauté, c'est 19 millions. Donc, c'est pas rien. Et en sachant que, une fois encore, on n'aura pas augmenté les impôts, puisque la communauté de communes lève également quelques impôts dans le secteur plutôt économique, mais on ne touche pas au taux.
C'est la taxe professionnelle ou à l'erreur?
C'est ceux qui...
Un rebond de taxe professionnelle.
C'est AVAE, enfin, ITER, enfin, il y a 3 ou 4 autres. Il y avait une ETP, maintenant il y en a 3 ou 4. Hein. Tous les impôts économiques, on ne touche pas à leur taux cette année. On ne touche pas à la taxe des ordures ménagères non plus. On n'a pas emprunté depuis 2 ans, depuis la mise en place de la nouvelle communauté, à 29. Il n'y a pas eu 1 euro emprunté. Et cette année, au budget, on fait figurer un emprunt, mais que sans doute on ne réalisera pas. Pour les questions d'équilibre budgétaire, il faut le faire figurer, mais on n'est pas obligé de le réaliser. Et on a toutes les raisons de penser qu'il ne sera pas réalisé. Donc ça fera 3 ans de suite sans aucun euro emprunté. Ce qui veut dire évidemment qu'on désendette la communauté, qui est elle-même déjà peu endettée, et le peu d'endettement qu'il y a disparaît au fil des années, ce qui
permet l'implantation de nouvelles entreprises sur le territoire.
Oui, et puis ce qui permet aussi, dans les années à venir, pour les responsables de cette communauté de communes, ils auront des marges de manœuvre. En matière, quand vous héritez d'une communauté, d'une collectivité endettée, vous êtes très limité dans vos capacités à emprunter. Là, dans les années à venir, s'il le faut, s'il y a un grand projet, parce qu'on peut, il ne faut pas renoncer à l'emprunt fondamentalement, ça permet aussi de faire des grands projets. Donc,
c'est même bon signe, un emprunt.
Oui. Donc c'est aussi, c'est comme tout, il faut être dans la juste mesure. Mais là, très franchement, de ce côté-là, la communauté de communes aura des possibilités. Mais quoi qu'il en soit, c'est une communauté qui est très attentive aux 29 communes, puisqu'on est dans l'intercommunalité, on n'est pas dans la supracommunalité, c'est-à-dire que, évidemment, la communauté de communes doit agir en cohérence et avec l'accord des 29 communes. Et donc, la communauté de communes développe des actions de solidarité importante vis-à-vis des 29 communes membres, et que je pense qu'il y a très peu de communautés de communes qui développent à la fois des fonds de concours au bénéfice des fonds de concours, c'est des aides aux projets des communes. Ce qui fait que, évidemment, les communes peuvent en faire plus parce qu'elles sont davantage aidées. Et chaque année, la communauté de communes met 1 million d'euros à la disposition des communes, à la disposition des projets des communes. Alors, il faut correspondre à un règlement pour que tout le monde, évidemment, soit traité de la même façon, mais ça permet aux communes d'avoir des projets, et c'est le cas, effectivement, puisque ces fonds de concours sont distribués à de nombreuses communes en fonction, encore une fois, de leurs projets. Donc, il y a le fonds de concours, et puis il y a la dotation, ou les dotations de solidarité, que l'on a mis également en place. Et même sur le Villeneuvois, il y a 2 dotations de solidarité parce qu'il y avait un certain retard sur le Villeneuvois. Il y a également un fonds, le FPIC, qui est un fonds de péréquation que la communauté de communes pourrait garder pour elle-même et qu'on distribue également à l'ensemble des communes. Soit, au total, on distribue 1,5 million en termes de solidarité, entre le FPIC et la dotation de solidarité, c'est 1,5 million qui reviennent chaque année aux communes, plus le million du fonds de concours. Donc, une communauté de communes très tournée vers ses communes membres et qui aide les communes membres autant qu'elle le peut.
On peut rappeler les compétences principales d'une communauté de communes, parce que auditeurs, on a toujours un problème de pédagogie avec la communauté de communes. Les communautés de communes, on a l'impression que les citoyens ne savent pas et ne maîtrisent pas les compétences. Je suis persuadé que des gens appellent encore à la mairie de Villefranche ou de Najac pour parler de ramassage de poubelles. Il y a une confusion. C'est la communauté de communes du Grand Villefranchois qui a cette compétence en charge. C'est important de rappeler que les compétences principales, il y en a d'autres depuis la le transfert de compétences, mais économie, tourisme, environnement. Je crois que avec l'économie en tête de pont, hein, pour c'est la compétence quasi principale et essentielle d'une communauté de communes du Grand Villefranchois. Après, il y a dans l'environnement le ramassage des poubelles, le tri sélectif pour les professionnels, pour les particuliers et ce genre de choses. Pardon, je vous ai coupé, Serge Roch, mais je vois le,
là, vous avez fait.
Le chrono qui tourne.
Oui,
parlons des projets d'actualité, de cette extension de la zone de la Glèbe, après zone 1, zone 2, la zone 3. C'est plutôt bon signe aussi sur le territoire de se dire que des gens souhaitent s'implanter, et des entreprises et des industries, notamment.
Oui, alors vous avez bien fait de dire que évidemment, l'économie est une compétence majeure de la communauté de communes, parce que ça conditionne aussi notre avenir collectif. Si vous avez une bonne économie, de belles entreprises dans le secteur, ça crée de l'emploi et ça permet d'avoir un territoire actif et dynamique. Et donc, dans ce domaine-là, la communauté de communes s'investit beaucoup. L'économie au sens large, on aide les entreprises, on aide les commerces, on aide les agriculteurs, tout ce qui fait économie. On implante aussi, on va implanter de nouveaux services, le tiers-lieu. C'est aussi une action économique qui, en plus, agit à double détente, parce que ça aura également la vertu d'améliorer, de créer du flux en centre-ville, puisque le tiers-lieu, donc, qui est
un espace de coworking professionnel.
Coworking, de start-up, ouais. de toute la partie d'économie qui s'appuie sur le numérique, Dieu sait qu'elle se diversifie. Et on a vérifié qu'il y avait une appétence, une attente sur le territoire pour développer de tels lieux. Donc, la communauté de communes va acheter deux immeubles en centre-ville, rue de la République, pour travailler à la construction de ce tiers-lieu.
Tiers-lieu et Fab Lab, où ça viendra un petit peu plus tard.
Voilà, tiers-lieu, Fab Lab, on est décidé à tirer sur la corde au maximum pour apporter à Villefranche ce type d'activité qui est une activité d'avenir. Même s'il ne faut pas négliger pour autant, évidemment, les entreprises traditionnelles, et la communauté de communes s'est beaucoup investie antérieurement et maintenant sur le développement et l'installation de l'ISI. L'ISI, c'est quand même la deuxième entreprise privée de l'Aveyron en termes d'emploi. Hein.
Qui avait promis 300 embauches avec son déménagement, hein, de Villefranche à la zone d'activité,
voilà,
de la Glèbe.
Alors ça, c'est encore à faire.
Oui.
Mais ça dépend aussi, comment dirais-je, de l'ambiance économique. Mais c'est une entreprise qui se porte bien. Il faut la laisser s'installer correctement. Et c'est ce qui est en train de se faire, puisque dès la fin de l'année, la totalité des emplois sera installée sur la zone d'activité avec la finition d'une entreprise, la deuxième partie de l'entreprise, qui est énorme, hein, et qui vient de se finir. Et puis il y a aussi l'entreprise qui s'est installée juste à côté, et qui, Patty Bakery, qui est une très belle entreprise. On est sur des entreprises qui font partie du trio international. Ils sont sur le podium international en termes de packaging, etc. Et donc, là aussi, il y a une très belle entreprise à côté de l'ISI qui s'installe. Donc, tout ça va donner, évidemment, beaucoup d'attrait à la Glèbe. Et c'est pour cela que la communauté de communes est en train de travailler à l'extension de cette zone d'activité, qui est une zone d'entreprise phare pour tout le territoire, et où on va aménager 11 hectares de plus pour pouvoir recueillir de nouvelles entreprises dans les années à venir.
Il faut bien entendre que dans l'économie, il y a le petit commerce et l'industrie. Vous englobez tout, et d'ailleurs la compétence petit commerce, c'est un transfert qui a été opéré début 2017, je crois, ou en tout cas c'est très récent. Dans l'économie, on a aussi les circuits courts qui pourraient parfaitement faire un lien avec le respect de l'environnement, du vivant. On sait aujourd'hui que de consommer local, bio et local, c'est l'idéal. C'est la signature de l'Association pour la promotion de l'agriculture biologique en Aveyron. Est-ce qu'on pourrait imaginer un plan de bataille, ou est-ce qu'il y a un plan de bataille de la communauté de communes du Grand Villefranchois pour mettre à disposition peut-être de maraîchers, enfin, que nos cantines du périmètre soient alimentées par des producteurs locaux. C'est quand même l'idéal, hein, faut bien admettre. Est-ce qu'il y a des dossiers qui vont dans cette direction actuellement ?
Absolument, puisqu'on est en train de travailler au plan alimentaire territorial, au PAT, donc sur la communauté de communes. On a même embauché un ingénieur agronome, un élève, un ingénieur agronome, qui va nous aider à mettre en place ce PAT, qui a pour mission, effectivement, de valoriser tout ce qui est produits locaux. On a la chance d'avoir des très bons produits locaux également. Et c'est une dimension agroalimentaire sur lequel on veut s'appuyer. Vous savez que on travaille aussi à travers le territoire d'industrie. On a été labellisé territoire d'industrie. C'est un territoire qui est vaste. Il y a 12 secteurs en Occitanie. Et nous, on est dans le secteur qui va d'Aurillac à Rodez, à Figeac. Tout ça, c'est le territoire d'Occitanie. C'est des projets gouvernementaux qui ont pour but de développer l'industrie dans des territoires non métropolitains, en dehors des métropoles, et qui ont déjà des atouts en matière industrielle. Mmh. Et dans ce territoire d'industrie, il faut développer des projets pour lesquels on a des atouts. Et ici, dans notre territoire, ce qu'on veut pousser, c'est un campus des métiers de l'agroalimentaire et de la gastronomie. C'est ce qu'on est en train de travailler pour que se développe ce type de campus ici, sur notre territoire, parce qu'on estime qu'on a tous les atouts pour ça. Vous avez des entreprises dans l'agroalimentaire, vous avez les bons produits, vous avez également les établissements d'enseignement, et puis c'est tous les versus de l'alimentation, alimentation animale, alimentation évidemment humaine, il y a l'abattoir aussi, enfin, parce que cette notion de campus, il faut aller du début à la fin. Donc on a les produits et jusqu'à l'abattoir, on a toutes les chaînes, on a des industries agroalimentaires à Saccor, vous savez, qui commercialisent en Chine, la charcuterie, il n'y a que 2 entreprises françaises qui ont le droit d'exporter en Chine. Une des 2, c'est la Saccor, ici, à Villefranche. Donc, on voudrait développer ce campus des métiers dans l'agroalimentaire, parce qu'il faut que chaque territoire se spécialise un petit peu. À Figeac, ils sont dans le campus des métiers pour la mécanique vallée. À Decazeville, ce sont les services et les industries du futur. Eh bien, nous, ici, on a choisi le thème agroalimentaire parce que, tout simplement, on a matière à travailler et on a des atouts dans ce domaine, en sachant que l'agroalimentaire, c'est quand même la 2e industrie française. Même au niveau national, l'agroalimentaire, c'est extrêmement important, puisqu'on peut s'appuyer sur tout le monde rural et tous les bons produits qu'il produit.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que la communauté de communes du Grand Villefranchois, dans ce cadre et dans ce projet, mette à disposition des terrains pour des maraîchers? Moi, je reviens au maraîchage aussi, qui me semble une base de l'alimentation. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la communauté de communes préempte sur des parcelles, de manière à installer de nouveaux agriculteurs? Je préfère parler de paysans, puisque c'est celui qui façonne le paysage, on le sait.
Et vous avez raison. Non, mais c'est tout à fait possible. Et d'autres collectivités l'ont fait. On cite souvent Albi, qui a mis un office rural. Mais c'est dans le chemin de la commune d'Albi, et pour réutiliser les anciens maraîchages qui étaient autour d'Albi.
Rodez aussi est dans cette démarche, mais ça met du temps à voir le jour, tout de même. Et l'idée, c'est d'alimenter les cantines scolaires aussi.
Oui, mais c'est sûr que c'est l'idée est généreuse et belle, mais après, elle est très complexe à mettre en route quand même. Parce que si vous alimentez les cantines scolaires, il faut être en capacité de fournir à tout moment, toute l'année. En fait, c'est ça qui est compliqué. Mais bon, c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas le faire.
Et accepter que la carotte soit un peu de travers.
Au contraire, c'est le meilleur. Les pommes bossues et les carottes tordues, c'est les meilleures. Et gustativement et également pour la santé.
On n'aura pas le temps de tout dire, mais on peut peut-être ponctuer, parce que la saison démarre aussi avec le tourisme, qui fait partie d'une compétence transférée à la communauté de communes du Grand Villefranchois. Quel avenir pour l'office de tourisme? Un nouveau lieu, on en entend parler. En tout cas, une nouvelle organisation aussi sur le territoire.
Le tourisme, c'est une compétence communautaire pour une simple raison, c'est que c'est considéré comme de l'économie. Oui. C'est de l'économie, et effectivement, au niveau régional, c'est le 2e poste en termes d'apport de richesse, et de création de richesse, et de création d'emplois. Donc, pour notre territoire, le tourisme, c'est capitale. D'autant qu'on a un très beau territoire, un territoire magnifique, au niveau de 29 communes. Très franchement, chaque commune a quelque chose à montrer, a quelque chose d'intéressant. C'est pour ça qu'on avait fait le premier bulletin communautaire avec une fiche d'identité de toutes les communes qui étaient traitées de façon tout à fait égalitaire. Chaque commune avait une page et on s'est aperçu que sur les 29 communes, toutes avaient des sites intéressants à découvrir et qui sont souvent trop méconnus. Donc, on a à travailler cela. Parce que il y a du grain à moudre et qu'il y a des bénéfices à en tirer, des bénéfices sur le plan public, sur le plan de l'activité, de la richesse du territoire, de la création d'emplois. Voilà, il faut concevoir le tourisme pour ça. C'est une vraie activité économique. Et donc, c'est à ce titre-là que la communauté, comme celle-ci, comme partout, ça, le législateur l'a attribué aux communautés de communes, parce qu'il a jugé que c'était un pan de l'économie, un pan important. Et donc, sur Villefranche, on s'est emparé du sujet. Ça a été évidemment... l'organisation a été un peu compliquée, parce qu'il y avait 3 associations. Il fallait passer d'un statut associatif pour les offices du tourisme, puisque c'est la responsabilité des communautés de communes, gérer les offices du tourisme. Il faut voir donc comment on le fait, comment on passe de 3 à 1, tout en maintenant, évidemment, les antennes sur les 3 territoires, et dans un statut associatif qui était bien implanté, mais qui avait ses limites si on veut passer à la professionnalisation, à la spécialisation du tourisme auquel il faut consentir si on veut vraiment que le tourisme apporte un plus au territoire, même si des travaux avaient déjà été faits. Mais il faut amplifier tout cela et on avait besoin de passer à une organisation nouvelle, d'où la création de la société publique locale, qui permet également de commercialiser les produits touristiques, ce qui n'est pas le cas avec une simple association ou avec un EPIC qui est un établissement public et qui ne permet pas de commercialiser et d'entrer dans les circuits touristiques et économiques. Et donc,
encouragé par le label Grand Site Midi-Pyrénées, voilà, qui intègre Saint-Antonin-Nobleval, Villeneuve, Najac, Villefranche et Saint-Antonin-Nobleval. Je dirais que c'est presque cohérent en termes de patrimoine, même si on dépasse une frontière, hein, celle du département, quel regard vous portez?
Non, alors, mais c'est tout à fait. De toute façon, on n'avait pas trop le choix. La région a imposé cela.
Ils sont pas contents à Saint-Antonin.
Mais si, c'est à Saint-Antonin, ils sont très contents. Et nous, on est contents aussi. Et Saint-Antonin, c'est une région très touristique. Oui. Et il y a beaucoup de monde patrimoine l'été. Et donc,
Beau marché le dimanche aussi.
Oui, un gros marché le dimanche. Et de marcher avec eux, c'est pas pénalisant pour nous, bien au contraire. Oui. Mais ceci dit, heureusement que nous, on avait fait avant la démarche Grand Site, on était Grand Site Midi-Pyrénées, et Saint-Antonin et Villeneuve, d'ailleurs, se sont agrégés à cela. Heureusement qu'il y avait un Grand Site préexistant, parce que la région n'a pas créé de nouveaux sites dans l'ancienne Midi-Pyrénées. Mmh. Donc, ils se sont... heureusement qu'il y avait ce site, parce qu'au départ, on n'était pas prévu quand même. Il n'y avait que 2 sites, 2 grands sites dans l'Aveyron, et nous, on n'était pas prévu. Donc, on avait fait les démarches pour intégrer, évidemment, ce club qui est recherché de grands sites, et ça a permis donc à Saint-Antonin, à Villeneuve, de venir faire un grand site d'Occitanie et qui va nous permettre de rayonner sur notre territoire, en sachant qu'on vient de recruter un nouveau directeur qui vient du Grand Cahors, qui a des compétences avérées en matière touristique et qui va donc dynamiser ces offices de tourisme, leur permettre de jouer le rôle pour lequel ils sont faits, c'est-à-dire...
avec des moyens alloués par la région notamment.
Oui, pour... absolument, et avec les sites internet modernisés, avec l'accueil, parce qu'il y a de nombreux gîtes dans le territoire, et c'est grâce à l'office du tourisme est quand même très important pour eux, puisque les gens se renseignent sur ces offices du tourisme pour louer des meublés, des chambres, etc. C'est un rôle fondamental, évidemment, en matière d'activité touristique et donc
économique. Heureusement, on a le festival en Bastide début août à Villefranche-d'Aurillac pour retenir les touristes, puis ils se laissent faire, hein, parce que le spectacle est vraiment agréable, de spectacle de rue de l'association des espaces culturels villefranchois.
Absolument, c'est un très beau spectacle qui est très bien soutenu par les collectivités, le département et les communes concernées. Et c'est comme ça qu'il peut avoir lieu. Et c'est dû également, évidemment, à l'association qui a trouvé un vrai savoir-faire pour attirer des spectacles de qualité sur notre territoire. Il faut découvrir ce spectacle de rue, ne pas rester sur un préjugé, il faut y aller, oui. Il faut voir, et on se fait plaisir effectivement, parce que c'est de très beaux spectacles dans nos six bastides aveyronnaises.
Il y a plein d'autres associations qui participent à l'attractivité de nos villes, villages et bastides de Villefranche, de Rouergue. Là, on a parlé des espaces culturels villefranchois, mais il y en a plein d'autres, voilà, pour penser à tous. On ne pourra pas tous les nommer parce que la liste est longue. Merci Serge. Oui
je simplement pour, en matière de nouveautés, l'an dernier, on avait fait un vidéo mapping sur le centre-ville, sur 3 jours, qui a eu beaucoup de succès. Totalement. On a eu beaucoup de retours positifs. Et cette année, on veut développer ça. Et ça ne durera pas 3 jours, ça durera 15 jours. Mmh. Et on est en train de réfléchir également à une animation sur le plan d'eau de l'Aveyron, parce qu'il faut aussi avoir conscience que le réchauffement climatique, ça existe. Et ça touche les centres-villes, peut-être plus que le reste, parce qu'on manque de végétalisation et d'eau. Et donc, on travaille à rendre agréable le centre-ville pendant la grande saison touristique, en développant les capacités qu'on a, puisqu'on a la chance d'avoir un plan d'eau quasiment au centre-ville. On est la seule ville de l'Aveyron à avoir un plan d'eau là au centre. Hein. Et donc, il n'est pas assez valorisé, utilisé. On est en train de travailler pour voir si dès cette année, on pourrait avoir des animations sur ce plan d'eau qui serait, je pense, très attirante pour les touristes, sans compter aussi l'effort culturel. Il faut que vous sachiez que cet été, il y aura, dans le cadre du 100e anniversaire de Soulages, des toiles de Soulages à Villefranche, exposées au musée.
Qui a fait partie des rénovations.
Rénovations, un très beau musée, on a maintenant un très beau musée à Villefranche. Donc j'invite les Villefranchois et nos touristes et nos habitants de tout le secteur à le visiter, et notamment pendant l'été, où ils vont pouvoir participer au 100e anniversaire du plus grand peintre vivant et célébré partout dans le monde, Pierre Soulages. Voilà.
On peut ponctuer, on se donne rendez-vous d'ici quelques mois, on aura encore plein de choses à évoquer, à dire, très certainement. Mais je crois qu'on a fait un joli tour aujourd'hui. Merci Serge Roch d'avoir accepté cette invitation. Je vous dis à très bientôt.
À très bientôt quand vous voulez. Je suis à votre disposition.
Dès l'inauguration, ou pas l'inauguration, le lancement du chantier du pôle culturel peut-être à Villefranche de Rouergue, ça sera peut-être l'occasion d'une visite, ou peut-être qu'on peut s'offrir un reportage directement sur le lieu, reportage radio guidé. Merci en attendant d'avoir accepté cette invitation. Belle journée.
Merci à vous.
CFM, le MAG, la vie du Villefranchois.